Héron. Bonsoir à chacun, bonsoir à ceux qui sont présents dans cette basilique, bonsoir aussi à ceux qui rejoignent la basilique à travers la chaîne YouTube. C'est toujours une joie pour moi de cheminer avec vous vers cette belle solennité de l'Immaculée Conception. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier, on a abordé un sujet très important dans notre vie, hein, notre rapport au corps, à la lumière de cette belle expression du pape Jean-Paul II, le corps est le sacrement de la personne. La personne se révèle à travers son corps. Hein. Vous vous rappelez, hein, le corps est la synthèse de notre histoire, il est l'expression de nombreuses relations, évidemment de la relation de nos parents. Nous avons un code génétique dont nous héritons et qui révèle notre rapport aux générations. Est-ce que, voilà, peut-être, pas du tout. Oui, merci ma sœur. Heureusement que les sœurs sont là pour veiller à ce que la parole puisse se communiquer. Donc, ce rapport au corps qui nous relie aux générations qui nous précèdent, à l'histoire qui est la nôtre en fait, la façon dont nous nous exprimons nous resitue par rapport à l'histoire vécue, par rapport à ce que l'on vit au présent et aussi par rapport à l'avenir. Parce qu'à travers une parole prononcée, à travers des gestes posés, je m'engage par rapport à un avenir. Donc le corps se situe par rapport à des relations, par rapport à une histoire. Alors cette histoire, elle est forte d'action de grâce, certainement. Elle est aussi abîmée par le mal, par le péché, par la souffrance. Et donc, ce qui était important de voir, c'était que le Seigneur vient nous rejoindre au cœur de notre existence pour nous permettre de faire de nos limites corporelles, nos limites affectives, nos limites humaines, un moyen pour aimer davantage. Vous rappelez l'exemple de Mère Teresa, toute marquée par la misère qu'elle a côtoyée, et pourtant elle dégageait une lumière qui traduisait sa relation à Dieu. Donc plus profondément que nos limites, que notre épreuve, que notre faiblesse, nous pouvons nous enraciner dans le Seigneur qui se donne à nous, dans le « ceci est mon corps » et c'est de cela dont on va parler. Alors hier, j'ai évoqué le fait que nous pouvions dire nous aussi « ceci est mon corps ». Nous pouvions nous enraciner dans la grâce que Dieu nous fait pour nous donner à notre tour. Et cet enracinement dans la grâce trouve sa source et son sommet dans l'Eucharistie de Jésus. Donc c'est le thème de cette soirée. Comment est-ce qu'on comprend un peu mieux, c'est toujours un peu plus à chaque fois, parce que c'est un grand mystère, ce qu'est l'Eucharistie de Jésus. Alors, vous savez que l'Eucharistie veut dire rendre grâce, et en même temps, au cœur de cette action de grâce, il y a un sacrifice, le Seigneur qui donne sa vie pour nous, afin que nous puissions la recueillir. Alors, comment comprendre ce mot de sacrifice qui traverse l'histoire du salut, que l'on retrouve dans plusieurs passages bibliques. Un des premiers sacrifices se retrouve au livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, où vous savez que Noé a été sauvé, il a été préservé du déluge, le péché abondait et le Seigneur a reconnu en Noé injuste, et donc il a préservé Noé avec l'ensemble des créatures, toutes les espèces étaient représentées sur l'arche de Noé. Et il va faire alliance avec Noé, il va refaire alliance avec Noé, en lui disant « Soyez féconds et dominez, donc je vous appelle à être des porteurs de vie, c'est notre vocation profonde, c'est de communiquer la vie que l'on a reçue, la vie corporelle, la vie psychologique, la vie spirituelle, on est appelé à la communiquer. Et en même temps, à veiller sur la création, toujours à travers le don de la vie. La création, elle est animée par la vie et je suis appelée à veiller sur cette vie pour qu'elle puisse grandir. C'est le sens du terme cultiver. Donc, Dieu refait alliance avec Noé. Il reprend l'alliance qu'il avait fait avec Adam et Ève avant le péché. Mais il y a une clause dans cette alliance qui est très importante, où il dit à Noé, eh bien, vous pouvez profiter de tout et vous pouvez même manger de la viande. Vous pouvez manger de la viande issue des animaux, ce qui n'était pas le cas avant. Et il précise, vous pouvez la manger, mais il faut que vous sépariez la chair du sang. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur demande cela ? Après le péché, on voit comment l'homme, bien évidemment, il est toujours créé bon, mais comme il est très abîmé, comme il éprouve un manque en lui, il risque de reproduire ce manque à travers des actes mauvais. C'est la raison pour laquelle le péché avait abondé. Donc le Seigneur tient compte de ça, il entre dans une pédagogie divine où il demande à Noé, non pas de se laisser aller par rapport à ses passions et à son affectivité, à ses désirs, mais à la resituer par rapport à la valeur de la vie. Quand il dit à Noé, quand tu tueras un animal, tu sépareras la chair du sang, ça veut dire tu saigneras l'animal, le sang est là pour qu'il puisse réapprendre à découvrir ce qu'est la vie. D'accord ? À la place de souffrir d'une violence qui n'est pas du tout cadrée, là le Seigneur donne un cadre pour réapprendre à l'homme la valeur de la vie. Donc, le fait de tuer un animal est le lieu ou l'espace que le Seigneur offre pour que l'homme puisse canaliser son alliance, sa violence pour réapprendre la valeur de la vie. C'est ça le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice est là pour nous réapprendre la valeur de la vie. Donc ça, c'est un premier sacrifice. Il y en a plusieurs dans la Bible. Vous avez aussi ce fameux sacrifice demandé à Abraham qui consiste à offrir son fils Isaac et donc qui aboutira à la circoncision. Donc le sacrifice consiste à redécouvrir la valeur de la vie et au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, ce sacrifice se précise, il devient un lieu de prière. Après le temple, il n'y a plus des sacrifices qui sont offerts dans le temple, mais une fois après la destruction du temple, ce sera la prière qui deviendra le lieu du sacrifice. La prière des psaumes nous apprend à intégrer tout ce que l'on vit, nos désirs, nos cris de violence, vous savez, il y a ce verset dans les psaumes, « Fracasse la tête de mes ennemis », mais j'en fais un lieu de prière. Je dis à Dieu, « Fracasse la tête de mes ennemis ». Donc, à la place de fracasser la tête de mon ennemi, j'en parle à Dieu. J'en fais un lieu de dialogue. Et plus je dialogue avec Dieu par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'éprouve, plus je le laisse transfigurer mon existence. Le vrai sacrifice est un sacrifice d'action de grâce. Donc non seulement l'homme a été amené à redécouvrir la valeur de la vie, mais il est amené à redécouvrir celui qui lui donne la vie, à rendre grâce même à travers les échecs, les épreuves, les cris de détresse. Vous savez, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le psaume 22. C'est une épreuve que l'on peut tous traverser, mais Seigneur, vers ce qui m'arrive, mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Le fait d'adresser cette épreuve d'abandon à Dieu permet au Seigneur de venir habiter cette épreuve d'abandon. Donc, la prière des psaumes nous apprend à entrer dans l'action de grâce. Alors Jésus a prié ces psaumes. Chaque dimension humaine qui s'y trouve exprimée et qui exprime quelque part toute l'histoire d'Israël, il reprend tout cela pour offrir cela à son Père. Donc on peut imaginer comment Jésus, tout au long de sa vie, a offert non seulement tout ce qu'il vivait, mais tout ce que vivait le peuple, tout ce que vit l'humanité, et aussi la création, parce qu'il y a des psaumes qui prennent avec eux, dans notre prière, toutes les dimensions de la création, pour qu'on puisse bénir Dieu dans la création. Donc les psaumes, je crois, sont un excellent commentaire de ce qu'on entend par Eucharistie. Alors l'Eucharistie va quand même un tout petit peu plus loin, puisque évidemment cette Eucharistie nous introduit dans l'action de grâce de Jésus, mais plus précisément, à travers cette Eucharistie, Jésus se rend réellement présent. Il se rend réellement présent à travers les espèces du pain et du vin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur le sens de ces espèces. Pourquoi du pain et du vin ? Pourquoi du pain et du vin ? C'est assez intéressant, en fait, au niveau de la symbolique. Vous savez, le pain, c'est à la fois le fruit de la terre et le travail des hommes. Alors ça, on peut le comprendre, mais il n'y a pas que le pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Mais pourquoi le pain l'est de façon toute particulière ? Parce que il y a ce grain qui est planté en terre, qui meurt, qui craque, et de là va sortir le blé qu'on va recueillir pour en faire de la farine. Et donc il y a à la fois les semailles de toutes les générations qui nous permettent d'accéder à ce blé, d'accéder à cette farine pour faire du pain. Donc en fait, le pain est symbolique de, non seulement de la création, il est fruit de la création, mais du travail de l'homme et de ce travail qui a traversé toutes les générations. Donc le pain nous resitue par rapport à toutes les générations et par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est assez beau de voir ça. De même pour le vin. Vous savez que pour faire du vin, évidemment, il faut déjà veiller sur la vigne, donc c'est déjà tout un travail que de faire grandir, de faire croître cette vigne, et puis il faut prendre le fruit, l'écraser. Le grain se craque, le grain est appelé à mourir pour donner la pousse, et le raisin, il est écrasé. Donc il y a une dimension de mort, et et puis de vie plus grande qui jaillit à travers ces symboles du pain et du vin, d'accord ? Donc, c'est pas n'importe quel symbole que Jésus a choisi. Il a choisi des symboles qui relient toutes les générations à partir de la création et du travail. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que lorsque les espèces, donc lorsque sur l'autel on a le pain et le vin, ça représente quoi ? Ça représente évidemment, je l'ai dit, la création, le travail, mais à travers cela représente votre vie. Votre vie à travers toutes ses dimensions, à travers vos souffrances, vos échecs, vos maux, vos relations difficiles, à travers les réussites, à travers les joies. Le pain et le vin qui sont offerts sont l'offrande de vos vies. C'est extrêmement important. C'est à partir de ce symbole que vous entrez vous-même dans l'offrande que fera Jésus. Est-ce que ça va jusque-là ? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc le pain, le vin, donc vous en voyez un peu la symbolique. Évidemment, il y a aussi la symbolique de la manne. Vous savez, ce pain qui est donné chaque jour au peuple lorsqu'il traverse le désert, au moment où il a faim. Donc il y a cela aussi. Ce qui est parfois intéressant pour nous aider à mieux creuser ce qu'est l'Eucharistie, c'est d'aller voir aussi dans la liturgie juive, parce qu'en fait, Jésus a célébré l'Eucharistie dans le cadre de la Pâque juive, la Pâque juive qui fait mémoire de la libération d'Égypte. Alors, moi, j'ai eu la chance un jour de participer à Pessah, à Jérusalem, donc de vivre une Pâque avec une famille juive. Et c'était assez beau. Il y a un moment donné, au tout début du repas, il y a le père de famille qui prend du pain sans levain. Et alors, il appelle ce pain, et c'est très intéressant, le pain de la misère. C'est le pain qui est assez pauvre, en fait, pour être distribué à tous. Le pain qui est assez pauvre, donc il n'est pas trop riche, parce que quand il est trop riche, du coup, on ne peut pas trop le distribuer. Et là, il est assez pauvre pour être accessible à tous. Donc, c'est le pain de misère que le père de famille prend, il le bénit et il le distribue. Et c'est comme ça que commence le repas de la Pâque. Qu'est-ce que Jésus fait lorsque, en faisant mémoire de la libération d'Égypte, y prend profondément conscience à quel point nous avons chaque jour besoin d'être libérés. Hein, il a ses disciples autour de lui. Hein, on peut imaginer comment ses disciples pouvaient se situer vis-à-vis de lui. Hein, c'était le maître qui les enseignait. Et donc, ils le suivaient. Et voilà qu'il va les inviter à faire un pas de plus au niveau de l'enseignement. Il ne s'agit pas simplement de parler du royaume des cieux. Il s'agit de permettre à ses disciples de participer à ce royaume des cieux. Et comment est-ce qu'il va les introduire profondément à ce royaume des cieux? Eh bien, en disant de ce pain de misère, que dira-t-il de ce pain de misère? Ceci est mon corps livré pour vous. Il va se donner à travers ce pain. En se rendant présent dans ce pain, il se rend présent au cœur de chacune de nos vies. Il s'unit à tout ce qui fait notre vie. Il s'unit au plus profond de notre être. Il s'unit à notre humanité. Et donc, il vient nous sauver. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? C'est ce que je disais hier, il y a quand même un risque quand on vient à la messe. On est des bons cathos, l'Église nous demande d'aller à la messe le dimanche, et du coup, c'est de cocher la case. Je suis allé à la messe et donc j'ai fait ce que je devais faire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de venir à la messe, de partager non seulement le repas du Seigneur, mais de participer à son action de grâce? Donc, qu'est-ce qu'on est appelé à vivre dans la messe? Pas à pas, on y est conduit. Hein. Il s'agit d'entrer dans l'offrande de nos vies pour permettre à Jésus de venir habiter le cœur de notre vie pour la sauver. C'est ça l'Eucharistie. L'Eucharistie nous donne d'entrer dans une alliance très intime. Donc nous recevons au cœur de notre vie la vie de Dieu. Et cela commence dès le début de la messe. Hein, quand le prêtre dit « Le Seigneur est avec vous », vous répondez « Et avec votre esprit ». Donc il y a déjà un échange qui se vit. Hein. Quand on passe au Kyrie, voilà, on prépare notre cœur, on dit ben, « Voilà Seigneur, je te dépose tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je te le dépose pour que tu puisses me rejoindre plus profondément. Hein. » Il est important de déposer tout ce qui ne va pas pour entrer dans cette action de grâce, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'offrir ce qui ne va pas. Il s'agit d'offrir notre vie pour que nous puissions être davantage sanctifiés. Donc toute la messe nous conduit à ce sommet de l'Eucharistie où le Seigneur, à travers ce pain et ce vin, s'unit à nous. Hein? Donc évidemment, il est présent dans le pain et le vin, mais en étant présent, même si on ne communie pas, parce que parfois, voilà, on est dans une situation qui ne nous permet pas toujours de communiquer, hein? de communier. Et donc, même si on ne peut pas communier, on peut s'unir à Jésus, puisqu'il vient s'unir à nous. La communion nous donne d'entrer encore davantage dans cette union. Mais en fait, il en va d'un chemin extrêmement précieux, qui nous sanctifie, qui nous divinise. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur cette question de la présence réelle. Il ne faut pas oublier, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, que nous avons une religion qui nous resitue par rapport à une présence réelle. Combien de temps, mes amis, ne perdons-nous pas à des présences qui sont non réelles? Hein, quand je suis dans le métro parisien, je suis très impressionnée de voir à quel point les personnes sont avec leur casque, devant leur écran, et je me dis, mais en fait, on est là, on est tous des êtres humains, on est tous des personnes, et voilà que chacun est en lien avec d'autres, mais finalement on n'est pas réellement présent. Hein. Ou bien je croise quelqu'un que je connais, puis j'ai un coup de téléphone, et en fait je n'arrive pas à être présent à la personne que je connais parce que il y a cette autre présence de connexion, alors qui peut avoir une forme de réalité, mais attention de ne pas se laisser absorber, hein, par ces relations de connexion, au risque de perdre le sens de la présence réelle. Une des forces, je pense, hein, du christianisme, c'est que c'est le fait de pouvoir se rassembler autour de ce Christ qui se donne à travers le pain et le vin, et de communier à ce pain et à ce vin pour partager cette communion. Jésus vient me sauver, il vient me donner la vie. Et si vraiment je reçois à chaque messe un peu plus cette vie de Dieu, le réflexe devrait être le fait de partager cette vie autour de nous. Comment est-ce que nous communiquons cette vie autour de nous? L'Eucharistie n'a qu'un seul objectif, c'est de faire grandir non seulement notre communion à Dieu et la communion entre nous. Entre nous. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », c'est pour que nous puissions vivre les uns par rapport aux autres cette présence réelle. Est-ce que je suis réellement présente à ma sœur, à mon frère? On n'imagine pas à quel point c'est important. Le fait d'offrir une réelle écoute à une personne, le fait de pouvoir donner du temps, d'offrir de l'attention, peut être un lieu de guérison, un lieu de consolation pour mon frère, pour ma sœur en difficulté. Donc le salut que nous recevons à la messe, nous sommes ô combien amenés à le communiquer. Et il ne faut pas chercher très loin pour le communiquer. Nous avons tous dans notre vie des hauts et des bas, des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Comment est-ce que, à travers la présence qu'on s'offre les uns aux autres, on s'éclaire mutuellement, on communie à la peine de l'autre et aussi à sa joie. Donc l'Eucharistie nous conduit vers cette communion profonde qui fait que notre vie devient les autres jours de la semaine. Alors on a quand même la chance de communier tous les jours, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le peuvent. Mais déjà communier et venir à la messe une fois par semaine nous engage ensuite, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, non seulement à vivre la communion dans l'Église, mais à développer cette communion dans nos lieux d'engagement, dans le cadre du travail, dans le cadre des espaces de détente. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont dans une salle de sport. C'est intéressant d'essayer de réfléchir et de se dire, mais comment est-ce que je vis cet engagement dans la salle de sport de façon chrétienne? En fait, je ne suis pas chrétien simplement quand je vais à la messe. Je suis chrétien quand je vais à la banque, quand je vais faire mes courses, quand je vais au marché, quand je vais dans la salle de sport, quand je suis dans le métro. Et comment est-ce que la présence réelle de Jésus, qui me rejoint plus profondément que mes limites, se communique en fait, peut-être à ce collègue qui est non-croyant, qui précisément par rapport à la mission qui lui est confiée dans l'entreprise, traverse une difficulté, et donc je peux me rendre présent auprès de lui pour l'aider. En fait, c'est comme ça que l'Eucharistie se diffuse. L'Eucharistie est par essence missionnaire. Vous venez à l'Eucharistie pour que votre vie soit eucharistique. Jésus s'est fait chair, il se rend présent à travers ces espèces que sont le pain et le vin pour qu'à notre tour, en union avec lui, nous soyons de plus en plus présents les uns pour les autres. L'évangélisation, c'est comme ça qu'elle se vit. Alors qu'est-ce que ça veut dire être présent les uns pour les autres? Eh bien, moi il m'arrive de temps en temps de faire un peu d'accompagnement de couples ou bien parfois de personnes en difficulté. Et c'est sûr que si les personnes viennent me voir, c'est parce qu'il y a des difficultés, etc. Et donc on essaye à travers l'écoute, etc., de trouver un chemin. Si j'entends ce que la personne me rencontre, je peux parfois me dire « mais oulala, c'est mal barré, ça va être difficile ». Et puis à ce moment-là, il est ô combien important que je puisse me rappeler, Jésus a donné sa vie pour cette personne. Et donc le premier à ouvrir un chemin de vie à cette personne, c'est lui. Est-ce que je crois en Jésus qui va lui ouvrir un chemin de vie? Il n'y a pas une impasse dans notre vie qui ne soit pas appelée à être un chemin d'ouverture à la vie plus grande. Vous connaissez cette très belle expression de Saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Hein? Parfois, quand on est faible, on se dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? On se sent abandonné par Dieu, par la communauté, etc. Et pourtant, hein, c'est quand je suis faible que le Seigneur, que je peux peut-être me rendre encore plus disponible à ce Seigneur qui me donne la vie. Hein, hein. Et quand on a traversé parfois des épreuves, la maladie, le handicap, et qu'on a recueilli cette vie plus profonde, eh bien à ce moment-là, on peut rejoindre d'autres personnes qui peut-être traversent les mêmes épreuves. Donc c'est comme ça que la vie de l'Eucharistie circule. Donc l'Eucharistie concerne évidemment toutes les dimensions de notre vie. Toutes les dimensions de notre vie sont appelées à devenir des lieux d'action de grâce. Alors rassurez-vous, ce n'est jamais fini, c'est toujours une tâche, c'est jamais acquis, ce sera acquis le jour où nos corps ressusciteront et que on verra Dieu face à face, là on sera dans une action de grâce parfaite, mais pour s'y préparer, il est bon de s'y entraîner. Et l'Eucharistie de Jésus nous donne d'entrer de plus en plus dans cette action de grâce. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis s'il y avait d'autres éléments. Alors évidemment, c'est un mystère infini. Hein. Peut-être insister sur le fait que l'Eucharistie, Jésus fait mémoire, lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, lorsqu'il institue l'Eucharistie, Jésus fait mémoire de la libération d'Égypte, hein, donc la libération du peuple, hein, en se donnant à nous à travers le pain et le vin. Il nous libère de tous les maux. Il s'agit d'entrer vraiment dans cette œuvre de libération. C'est une des raisons pour lesquelles il est demandé, vous savez, le dimanche, de se reposer. Il est bon, le dimanche, lorsque on reçoit l'Eucharistie, de continuer pendant la journée à recueillir cette grâce immense que l'on a reçue. En fait, le dimanche devrait être un lieu de célébration, ça c'est sûr, mais aussi un lieu de fête et de repos communautaire, pour que nous puissions nous partager précisément et partager très concrètement cette vie que nous recevons de Dieu. Voilà, après vous avoir dit cela, je vous laisse recueillir peut-être l'un ou l'autre élément de cet enseignement pour précisément entrer dans l'Eucharistie que l'on va célébrer. Merci de votre attention. Demain, on parlera du baptême. Que veut dire vivre comme baptisé? Que veut dire participer à la mort et la résurrection de Jésus? On parlera aussi de la confirmation. Et après-demain, on parlera du sacrement du mariage. Et puis des autres vocations. Parce qu'en fait, la vocation au mariage ne se comprend pas indépendamment des autres vocations. On va voir comment les vocations s'articulent les unes aux autres. Moi, j'ai besoin de la vie des couples pour découvrir quelle est ma vocation propre de consacrer et réciproquement. Et puis, comment est-ce que une personne célibataire vit de son baptême, etc. Voilà, on essaiera de réfléchir sur toutes les formes de vocation qui viennent animer notre vie communautaire. Merci de votre attention.